ping-pong.
Et je faisais si peu attention à elle que je ne m'étais pas encore aperçu qu'elle était à côté de moi au lieu d'être entre son père et sa mère. Quand soudain, non, jamais je ne saurais retrouver cette émotion et cet étonnement.
L'émotion est grande ce soir, non seulement parce que nous avons aperçu la présence à nos côtés de Zoé Sfez, mais aussi puisque on vient d'apprendre la disparition d'Alexandre Astruc, cinéaste, écrivain, journaliste qui s'est éteint, Zoé, à l'âge de 92 ans, après avoir traversé le XXe siècle en exerçant une influence profonde sur le cinéma qu'il a pratiqué, mais aussi beaucoup commenté.
Oui, c'est une figure extrêmement singulière que celle d'Alexandre Astruc, fils de journaliste, né dans les années 20. Il est très vite, très jeune, fasciné par le cinéma et se met à écrire, même en pleine Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, pour réaliser des films. Il écrit dans à peu près toutes les revues dites libres, notamment dans Combat. Il suit tous les procès de l'épuration à la Libération. Son écriture, qui est extrêmement rapide et précise, est aussi rigoureuse que lyrique. Une rigueur qui lui vient de la fascination profonde qu'il a eue toujours et jusqu'à la fin de sa vie pour les mathématiques, notamment pour la figure d'Évariste Galois, mathématicien prodige, qui est mort à 20 ans seulement en 1811, à qui il va consacrer un court-métrage et plus tard aussi un roman. Il passe enfin au cinéma en 1953, mais avec un regard d'auteur. Noël Simsolo est journaliste, scénariste, il fut son ami, a coécrit avec lui un livre d'entretien, Le plaisir en toute chose, qui est paru l'année dernière. Cette tension entre lyrisme et rationalité a pour lui dominé toute la vie d'Alexandre Astruc.
J'avais découvert Alexandre Astruc par ses écrits et puis par ses films. Quand je l'ai connu, c'était une relation merveilleuse, on est devenus amis tout de suite, et c'était pas toujours simple, parce que c'était un tempérament extrêmement fou, extrêmement violent, c'était à la fois Dionysos et Apollinaire, bon, mais également c'était ça son cinéma et son écriture, c'est-à-dire que dans son cinéma, ce qui se passait, c'est qu'il avait des idées qu'aurait pu faire des grands films, plein de bruit et de fureur de partout et tout, mais comme il avait une formation de mathématicien, qu'il adorait, il avait une rigueur incroyable pour le filmer. Quand on voit les films d'Alexandre Astruc, ce qui est formidable, c'est que des films d'un grand lyrisme théorique deviennent de la théorie qui devient lyrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc à enlever, c'est fait au cordeau, c'est de la structure. Et le personnage en même temps, lui, il était comme ça, il avait commencé par écrire dans toutes les revues possibles, dès pendant la guerre, hein, bon, pour être connu. Il dit, comme ça, je pourrais faire du cinéma. Et quand il veut être connu, un beau jour, il a l'idée de la caméra stylo, c'est-à-dire, il écrit qu'on peut faire du cinéma comme on écrit des romans, en tant qu'auteur, en tant que style, en tant que tout ça, bon. Ça marche tellement bien que je crois qu'il rencontre Sartre quelques jours après, qu'il lui dit « Alexandre, c'est plus la peine que vous fassiez quoi que ce soit, vous resterez dans la postérité ».
Et ce concept de caméra stylo, Zoé, lui-même, Astruc, va l'appliquer dès son premier long-métrage et l'influencera durablement la nouvelle vague.
Oui, alors le premier film, le premier long-métrage d'Alexandre Astruc, c'est Le Rideau cramoisi, film complètement unique en son genre, dont on entendait un tout petit extrait en ouverture, adaptation d'une nouvelle de Barbey d'Orvilly, où joue notamment la star d'alors, Anouk Aimée, qu'il a été très difficile de convaincre, puisque c'est un film absolument sans dialogue, entièrement raconté par une voix off, qui se regarde et qui a été écrit finalement exactement comme un roman, qui aura énormément de succès. Plus tard, Chris Marker, notamment beaucoup d'autres, se saisiront de ce concept, revendiqueront aussi les influences des cinéastes qui avaient été défendus par Alexandre Astruc le premier, évidemment Hitchcock, Murnau, Mizoguchi, dont il fut l'un des découvreurs, et Welles, qu'il admirait tant qu'il prit plus de 60 kilos pour lui ressembler physiquement à une période de sa vie. Tout cela lui vaut le surnom de Tonton de la Nouvelle Vague, mais comme il était passé de la plume à la caméra, Alexandre Astruc, très vite, va repasser de la caméra à la plume, comme nous l'explique son ami Noël Simsolo.
On peut dire qu'à la fin des années 50 et des années 60, il est dans les grandes références avec Otto Preminger et avec Diverkman, Antonioni. Il est comme ça. Et il fait des films d'un grand lyriste, dont ce chef-d'œuvre absolu qui est La Longue Marche, qui est le seul grand film sur la résistance des années 60. En plan séquence, c'est-à-dire qu'on commence à tourner et pendant 9 minutes et on ne coupe pas. On ne fait pas d'insert, pas de montage. Et on se promène comme ça, mais avec une rigueur magnifique. Et puis, brusquement, peu à peu, il va se passer que, bon, bah, ça ne marchera plus. Et il va revenir à l'écriture. Alexandre a toujours été... Il n'est pas passé de l'un à l'autre. Il a toujours parallèlement écrit et fait du cinéma. Et au bout d'un moment, bon, bah, on n'a plus fait appel à lui comme réalisateur de films. Et donc, il a compensé par l'écriture. Et les dernières années de sa vie, il passait son temps à regarder parfois des films, à lire. Ce vieux monsieur très fatigué physiquement, ce qui est le plus important, je crois, c'est qu'il n'y avait aucune amertume. C'est pas le type qui allait dire « mais quand j'étais cinéaste » ou « quand mes romans étaient publiés », non. Et il avait toujours un ou deux romans prêts qu'il voulait faire publier et tout. Il était passivement dans cette chambre en activité permanente.
Voilà, alors il tourne ensuite de très belles adaptations de Balzac ou de Maupassant pour la télévision. Ses écrits théoriques sur le cinéma restent aujourd'hui des références. Il est notamment l'auteur d'une série d'entretiens célébrissimes avec Jean-Paul Sartre. Il a plusieurs romans, Le Serpent Jaune, L'autre versant de la colline, Ciel de cendre, qui sont primés par plusieurs prix. Et finalement, le monde du cinéma se souvient de lui, lui décerne en 94 le prix René Clair pour l'ensemble de son œuvre, près de 25 ans après qu'il ait tourné son dernier film.
Et tout de suite, on passe au bref. Zoé, on l'ouvre avec une session architecture, l'honneur de nos invités.
Tout à fait, ouverture en très grande pompe du réouverture du San Francisco Museum of Art, qui devient aujourd'hui le plus grand musée d'art moderne du monde, avec une collection de 17 000 photographies, un centre Pritzker pour la photographie, 33 000 peintures, sculptures, photos, objets d'architecture. Et l'extension de ce musée, conçue par le cabinet d'architectes Snoeta, j'espère que je le dis bien, ajoute près de 16 000 carré à l'espace d'exposition et qui était préexistant de Mario Botta, construit en 95. Il a fallu plus de 300 millions de dollars pour arriver au bout de ce chantier titanesque.
L'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic a été récompensé jeudi par le prix Maison de la Presse.
Pour son roman Alam, histoire d'amour entre un Français et une jeune Tunisienne contrariée par le fanatisme religieux. Ce roman a été publié en début d'année. Il entraîne le lecteur en Tunisie au début des années 2000. Il s'achève avec la chute de Ben Ali. Évidemment, roman dans lequel Marc Trévidic a puisé dans son expérience de juge antiterroriste pour l'écrire.
Et ensuite, la région espagnole de Castille et Léon a annoncé jeudi l'interdiction de la mise à mort de taureaux lors des fêtes traditionnelles, sans toutefois s'attaquer à la tauromachie.
Mais ça reste une victoire en demi-teinte pour les défenseurs des animaux, puisque ce décret adopté par ce gouvernement conservateur vise la fête Toro de la Vega, qui se déroule dans la ville de Tordesillas. Cette tradition, qui remonte à 1453, a été décriée souvent par les défenseurs des animaux. Et le gouvernement régional justifie sa décision par, je cite, la nécessité d'adapter les lois à la sensibilité du public.